Voici mon profil. Non, Drupal.org. Donc, je m'intéresse à part. Donc, moi, je suis un intégrateur web. À part l'intégration, je m'intéresse aussi à la question du multilingue et je m'intéresse également à la documentation. Ça tombait bien. En fin de semaine, il y avait un sprint sur le multilingue et puis on a pu faire donc des avancées sur le sujet. Donc, si vous voulez me suivre au cours des prochaines semaines, donc voici un des endroits où je m'exprime, twitter.com/sylvainaubé. Je suis à temps partiel organisateur de Drupal Barbecue, donc on vous invite à être tous présents l'année prochaine à notre Drupal Barbecue sur le canal de la Chine avec Whisky Eco Bravo. Et donc, la perspective que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celle d'un teamer Drupal. Donc, je ne suis pas un programmeur moi-même, je suis un intégrateur web, je passe la plupart de mon temps dans le CSS. Et on cherchait donc des solutions pour améliorer cette partie du travail. Et puis, j'ai une expérience toute récente avec les préprocesseurs. Donc, j'ai découvert les préprocesseurs cet été. Je suis prêt à partager cette découverte-là avec vous. Je ne me considère pas nécessairement un expert sur le sujet. Donc, c'est à votre tour maintenant. J'aimerais voir tout le monde lever la main. Qui a déjà édité un fichier CSS? Excellent. Qui considère être un teamer professionnel ou quelqu'un qui gagne sa vie en faisant des thèmes Drupal? On a quelques-uns. Et qui a déjà essayé SAS, LESS ou Compass? Excellent, bravo. Donc, je suis content de voir qu'il y a autant de personnes qui vont apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça tombe bien parce que une chose qui est importante de voir, c'est que récemment, au DrupalCon London, il y a une session qui s'appelait Math Skills. J'ouvre une petite parenthèse qui n'est pas reliée à l'ES. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que pour CSS, les demandes professionnelles augmentent. Et puis, donc, connaître CSS 3 et les préprocesseurs sont très importants si vous voulez donc travailler dans le domaine. Pense qu'on va mieux m'entendre comme ça ici. Donc, l'idée, c'est avec les Math Skills, c'était d'évaluer différentes connaissances qui ont rapport à Drupal. Donc, le premier niveau serait de connaître les CSS, le deuxième, pouvoir faire des études de compatibilité, par exemple, et le troisième, donc, de connaître les préprocesseurs. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Donc, distinguer ces trois bêtes que sont LESS, SAS et Compass. Comment installer ces outils sur les plateformes? Comprendre les concepts de base et les intégrer à notre workflow Drupal. Donc, en fait, cette session ne porte pas nécessairement entièrement sur un concept qui est propre à Drupal, puisque, en fait, on peut utiliser les préprocesseurs avec n'importe quel gestionnaire de contenu. Mais je vais quand même montrer comment je l'intègre à mon thème Drupal. Donc, ce qu'on ne verra pas, effectivement, puisque je ne suis pas un programmeur moi-même, on ne verra pas la perspective de Ruby, mais on sait que ça s'utilise Ruby. On va avoir le minimum pour pouvoir l'installer. HTML est un dérivé aussi qui est relié, ça on va le voir un petit peu plus tard. C'est un dérivé finalement de Ruby et de SAS. On ne verra pas nécessairement des applications avancées, donc on va voir la base aujourd'hui. Et bon, on ne verra pas nécessairement où tout ça va nous mener. Donc, quels sont les principaux avantages à utiliser LESS ou SAS. Donc, si vous avez déjà une feuille de style de 3000 lignes, il y a un avantage net à avoir. Donc, on peut réduire beaucoup le temps de développement qui est relié au CSS. Et si plusieurs, par exemple, si on prend un projet qui a déjà été complété et qu'on souhaite ajouter une nouvelle section, souvent on hérite de ces feuilles de style de 3000 lignes. Et là, ce serait extrêmement pratique de comprendre un peu la structure qui est derrière les feuilles de style existantes. Donc, les préprocesseurs permettent ça. Ça nous permet d'utiliser CSS 3, y compris pour des fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement compatibles avec Internet Explorer. Donc, nous, on se doit de supporter Internet Explorer 6, 7 et donc toutes les versions. Ça nous permet de le faire. Et puis, donc, la librairie Compass qu'on va voir est un bon exemple de design pattern. Donc, c'est une banque de design pattern qui permet de ne pas recommencer à zéro nécessairement. Donc, il y a une adresse ici, donc bit.ly, CSS Preprocessors. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que il y a plusieurs préprocesseurs qui sont en compétition en ce moment. Il y en a au moins 8 sur la page qui est mentionnée ici. Puis donc là, c'est ça, ce sont les plus populaires. C'est bon, désolé, je suis de retour. Est-ce qu'on m'entend mieux? Voilà. Donc, pour simplifier ici, je m'entends beaucoup mieux maintenant, effectivement. L'idée derrière les préprocesseurs, c'est de rentrer le moins de code possible pour arriver à un résultat CSS. Donc, une des idées, je donne un exemple en pseudocode ici, c'est de pouvoir de passer de un à l'autre facilement. Donc, au lieu d'avoir à écrire à chaque fois des feuilles de style pour chaque exception, l'idée serait de les compiler puis seulement voir les faire une seule fois. Oh yes, c'est ça. O pour Opera, bien sûr. Maintenant, quoi choisir entre less ou sas? Donc, avant de répondre à la question, je vais voir les questions préalables qu'on doit se poser. Donc, premièrement, une des grandes conditions, c'était de pouvoir installer soit less ou sas. Donc, le fait de pouvoir choisir un ou l'autre dépend beaucoup de la capacité d'installation. Si on a un serveur en production, parfois, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec un ou l'autre, donc peut-être qu'on n'a pas le choix. C'est important d'avoir une option aussi qui nous permet de compiler automatiquement notre code, qu'on ne soit pas obligé de le recompiler à chaque fois. Donc, jusqu'ici, les deux l'offrent. Au niveau de la grammaire, on a un choix aussi entre les deux, donc ça peut être une question de goût personnel. Est-ce qu'il y a une communauté pour supporter les deux? C'est un critère important. Et puis, est-ce qu'il y a une librairie ou une extension? Et puis donc, dans notre cas, moi j'ai choisi d'utiliser SAS puisque Compass est une librairie qui est offerte avec SAS. Et donc, ça permet d'accélérer le travail en ayant des design patterns déjà faits. Donc, je vous présente LESS. Donc, on dit que c'est un Dynamic Stylesheet Language. Donc, l'idée, c'est que ça étend CSS. Quelqu'un qui écrit du CSS peut comprendre la structure du langage, mais ça l'étend un petit peu pour pouvoir l'améliorer. Donc, au niveau de l'installation, personnellement, j'ai pas essayé LESS. Je me suis plutôt concentré sur SAS. Donc, par contre, l'idée, c'est d'écrire des feuilles de style. Au lieu d'avoir des fichiers qui finissent par CSS, on a des fichiers qui finissent par LESS. Et puis, on a un petit bout de code JavaScript qui les compilerait en un résultat lisible. Donc, c'est un exemple de propriété qui appartient à LESS. Je vous présente donc son rival, SAS, ici. Donc, SAS vient au départ de l'environnement Ruby. Donc, s'il y en a qui sont familiers avec l'environnement Ruby, certains seront plus à l'aise avec cette structure-là ici. Donc, au départ, c'était très différent de SAS. Par contre, les deux se sont hybridés, se sont métissés, ce qui fait que maintenant, c'est presque pareil. Donc, une structure qui s'appelle SCSS, qui est le format qu'on va utiliser, qui est juste légèrement différent du CSS. Donc, s'il y en a qui veulent avoir une référence entre une comparaison vraiment plus technique, plus détaillée, je vous invite à aller voir cette adresse-là, ici. En passant, je vais mettre sur la page de DrupalCamp, montréal.com, je vais publier mon slideshow à la fin de la session ici, donc vous allez pouvoir accéder aux adresses. Donc, on voit que les différences sont vraiment mineures au niveau de la grammaire. Ça peut être, à la base, quelque chose aussi simple qu'avoir un signe dollar qui remplace un commercial ici pour SAS. Donc, dans le fond, si l'idée, c'est de choisir soit une option ou l'autre, et puis, donc, de développer dedans. On a un autre exemple ici où on a des styles imbriqués. Donc, on a simplement une petite différence entre les deux. SAS offre quelques avantages. Donc, notamment, il y a les structures conditionnelles. L'idée de faire un if sur une condition, et puis ensuite, par exemple, dire si le noir est, la transparence est plus grande que 30%, par exemple, on peut appliquer soit un fond blanc ou un fond noir. Aussi, l'idée de faire des loops, donc on aurait des, par exemple, on pourrait passer de bloc 1 à bloc 10, donc bloc 2, bloc 3, bloc 4, le faire simplement une commande comme ça. Et puis, laisse aussi des particularités. Donc, on peut aller chercher des styles spécifiques à l'intérieur des propriétés. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des ordi avec vous, qui désirez l'installer tout de suite. Je donne la formule. Donc, pour les Mac et pour les PC, donc il y a des petits bouts de logiciels qui existent. Donc, pour Windows, il y a un installeur Ruby qui existe. Pour les Mac, il y a une application aussi. Non, pas nécessairement, je pense. En fait, je n'ai pas essayé vu que je n'ai pas un Mac, mais comme passable, ce serait une option qui est offerte. Sur Linux, donc, il faudrait installer Ruby avec une commande. Donc, ajouter quelques lignes et puis installer en bas Compass, qui est la librairie qui va avec. Donc, je vais voir si je peux. Je pense que je vais passer par-dessus la démo, je vais aller directement, donc je vais continuer du point de vue SAS. Donc, s'il y en a qui l'ont déjà installé, une des idées de base, donc, c'est qu'on, avec une commande qui s'appelle Compass Create, on peut créer toute notre structure CSS. Donc, on a notre fichier style.css qui est créé, notre dossier image, notre dossier JavaScript et tous les dossiers dont on a besoin. Et ce qui est vraiment le fun, ce qui est vraiment agréable avec l'utilisation de SAS et Compass ensemble, c'est qu'une fonction qui s'appelle Compass Watch qui permet de compiler automatiquement tous les changements qu'on fait. Donc, chaque fois qu'on enregistre notre feuille de style SCSS, ça sera compilé tout seul. Donc, je vais parler du tronc commun, ce qui est commun aux deux langages. Une des idées très intéressantes, c'est qu'on peut remplacer des couleurs, par exemple des variables. Donc avant, dans ma feuille de style, sur mes 3000 lignes de feuille de style CSS, je pouvais avoir 40 fois le bleu, 40 fois le rouge et puis 10 variations de vert, par exemple. Par contre, ce qui est le fun maintenant, c'est que je peux les compiler en début de fichier. Donc je dis une fois ma couleur, c'est le code hexadécimal suivant, et puis je peux l'assigner comme variable dans mes styles. Ce qui fait que j'ai juste à la changer une fois au début et puis tout la feuille de style va suivre. Il y a des fonctions de couleur, donc on pourrait dire par exemple prendre le rouge, mais ajouter 10%. Ou encore soit saturer les couleurs ou jouer avec les transparences. Donc prendre un noir, mais lui donner une transparence de 50% pour en faire un gris transparent. Il y a aussi des opérations qui nous permettent de multiplier. Par exemple, si on a une valeur fixe, on pourrait dire on veut toujours que les marges soient trois fois plus grandes que la bordure, par exemple. Donc, on peut faire des calculs mathématiques pour en arriver là. Donc, l'idée de Mixin. L'idée de Mixin, c'est un peu comme une fonction. C'est l'idée de fonction qui est appliquée au CSS. Donc, c'est l'idée de prendre un paramètre qui est un petit peu plus grand puis qu'on peut réutiliser. Donc, l'exemple le plus connu, Rounded Corners, ici. Donc, si on veut faire des coins ronds sur un bouton, par exemple, donc on pourrait simplement prendre, j'ai la souris ici. Donc, l'idée, c'est de le définir une fois. Je pourrais définir une fois Round Corners au début de mon fichier. Puis, par la suite, je peux soit l'utiliser par défaut. Donc, j'aurai des coins ronds de 5 pixels sur tous les éléments qui sont par défaut, ou je pourrais lui donner une valeur de 10 pixels, ce qui me donnerait la valeur ici. Ce qui est le fun, c'est que Compass va traduire pour tous les navigateurs, donc WebKit, Mozilla et puis les autres. On peut aussi imbriquer les règles les unes dans les autres, ce qui permet de, par exemple, on voit là le paragraphe P qui est ici, donc on peut dire que chaque lien dans les paragraphes n'ont pas de soulignement. Et puis, si on va par-dessus un lien, on a une autre valeur qui apparaît. Donc, finalement, on peut imbriquer les valeurs, faire une structure logique. Je vous invite à faire un test pour le fun. Si vous avez n'importe quelle feuille de style disponible, vous pouvez la passer dans ce processeur ici qui s'appelle CSS to SAS. Ce que ça fait, ça va imbriquer toutes vos règles les unes dans les autres. Et ça fait déjà un premier ménage de ce qui est disponible. Des fois, on a des belles surprises. Il y a des optimisations auxquelles on n'avait vraiment pas pensé. Et donc, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'idée avec justement les border radius. Donc, on peut donner une valeur qui revient pour chacune des mixines. Donc, pourquoi nous, on a choisi SAS plutôt que LESS, c'est qu'il y avait une librairie derrière qui s'appelait Compass, qu'on a beaucoup aimé, qui permet d'offrir des design patterns déjà pré-programmés. Donc, il y a beaucoup de fonctions CSS3 qu'on n'arrivait pas à faire sur IS6, IS7, mais avec donc Compass, ça nous permet de les faire plus simplement. Ça nous permet de faire, par exemple, des fonctions d'ombre sur les boutons, simplement avec une ligne. Donc, c'est l'idée de prendre une règle, puis dire, moi, je veux un nombre de 5 pixels, et puis, hop, c'est réglé. Ce qui est le fun aussi, c'est que quand on utilise une librairie comme ça, tous les cas de base sont couverts. Donc, j'en ai fait une liste. Et puis, donc, l'idée, c'est de pouvoir toujours réutiliser les mêmes styles. Donc, quand on reçoit une feuille de style d'un graphiste, on peut s'attendre minimalement à ce qu'il y ait des coins ronds, qu'il y ait des ombres. Donc, des choses comme ça reviennent à chacun des projets qu'on fait. Et puis, c'est important donc d'avoir des outils déjà prêts. Donc, outre les boutons à coins ronds et les ombres, il y a les web fonts qui peuvent être traités avec cet outil-là. L'idée qu'on peut simplement insérer, par exemple, juste le nom de la font, puis tout le reste va être pris en compte. Pour ceux qui font du CSS sur une base quotidienne, l'idée de text replacement, remplacer soit des liens ou du texte par des images. Donc, les dégrader aussi, si possible, de créer des boutons au lieu de les faire en Photoshop. Puis les découper en Photoshop, les avoir en image, on peut faire des boutons avec des gradients. Puis on peut aussi définir tous nos liens puis toutes nos tables à partir de notre feuille de style. Donc, par exemple, il arrive souvent qu'on reçoive des chartes graphiques en disant les liens vont être verts, avec les liens en survol vont être en brun, comme ça. Donc, je peux inscrire tout ça et les définir. Et puis, idéalement, donc ça peut nous permettre de nous rapprocher de ce CSS3. Ça, c'est une image de CNN, en fait, qui était passée dans avec la fonction Transform de CSS3. Donc, peut-être qu'on va pouvoir de plus en plus de ce genre de site. Donc, pour ce qui est du remplacement du texte, on a un exemple ici. Donc, le remplacement d'image, c'est une formule un peu qu'on reprend dans chacun de nos projets. Une fois qu'elle est canée, entre guillemets, comme ça, qu'on en a une version. Donc, on a simplement à l'inclure. Pardon. Ici. Donc, tout ça remplace beaucoup de lignes de texte. Comme ça. Donc, ça permet d'accélérer un peu le développement, simplifier, puis réutiliser différentes parties. Maintenant, je vais parler, dans le fond, un peu où on va aller à l'avenir avec ça. Donc, l'idée d'avoir un framework maintenant, avec des design patterns disponibles. Ça nous permet de développer un peu un thème par an qu'on pourrait réutiliser pour chacun de nos sites. Et puis donc, tous les cas de base seraient couverts. C'est un peu l'idéal qu'on a ici. Puis ce qu'on aurait à changer, ce serait simplement les couleurs, les liens, les images de fond. Donc, c'est un peu la direction où on veut aller pour simplifier la gestion de nos projets. Et nous, dans nos thèmes par an, donc, on a les fonctions suivantes, donc tout ce qui est les questions de reset en CSS, on doit le couvrir dans notre thème parent. Les grids, nous on utilise Yahoo Grids pour remplacer 960. C'est un choix personnel, mais ça peut être bon à savoir. Donc les design patterns comme les boutons, comme ça serait dans le thème parent, et tout ce qui revient dans chacun des sites. Au niveau du thème enfant, à ce moment-là, on aurait les couleurs particulières à un site, les différents graphiques, les logos, les bullets, par exemple. Et puis, il y a un petit module qui s'appelle StyleGuide qui est hyper efficace ici. Si vous n'en avez pas servi encore, courez l'essayer parce que c'est vraiment extraordinaire pour comparer, par exemple, tous les types, donc les paragraphes, les headers, tout ça. Donc, en fait, de mon côté, Voilà, on a appris à différencier un peu LESS de SAS et Compass. On a installé ces outils sur la plateforme, puis on a regardé un peu les concepts de base qui étaient derrière. On a aussi vu comment je l'intégrais à mon workflow. Donc, vous faire une petite démonstration de 2-3 minutes, pas plus. S'il y a des questions, j'en prendrai peut-être maintenant. J'essaierai de les intégrer à ma démonstration. Donc, je ne sais pas si par hasard, il y en a qui ont des questions. Si. OK. On va voir ça. Donc, donne-moi une seconde, je vais quitter ma présentation et on va ouvrir une fenêtre. Ah, c'est bon, j'en ai pour 10 minutes. Je suis trop rapide. C'est un survol, effectivement. Donc, si je vais aller. Donc, c'est live, on va voir ce que ça va donner comme démonstration. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un environnement graphique. Ça se démo. Donc là, on tombe dans un environnement Drupal où on se trouve dans Sites All Teams. Et on va aller voir le démo ici. Donc, tous ces fichiers-là ont été créés automatiquement quand on était dans Compass Create tout à l'heure. Selon la formule qu'on lui donne, ça permet de changer les noms des dossiers. Une idée de base, donc, dans le fond, c'est que mes fichiers SAS sont dans ce dossier ici. Et ils sont compilés dans ce dossier CSS. L'idée, c'est qu'on prend le CSS final et on le met sur notre serveur en production. Pour simplifier, c'est la façon la plus rapide de publier. Donc, on sert ça seulement pour le développement local sur les serveurs. Je sais que théoriquement, on pourrait compiler sur les serveurs, mais ce serait plus simple de le faire comme ça ici. Donc, de quoi ça a l'air? Donc, ça, c'est le résultat final compilé. Donc, dans ma structure SAS, je vais revenir en arrière pour vous montrer. SAS compile seulement les fichiers qui n'ont pas de underscore devant leur nom, ce qui permet de séparer le fichier en plusieurs petits fichiers, en plusieurs sous-fichiers comme ça. Donc, par exemple, celui-ci ici compile tout ce que je peux mettre. Ici, c'est volontaire. Donc, nous, on a choisi cette structure-là pour y avoir n'importe quelle structure. On a choisi de séparer nos blocs, nos commentaires, les styles custom pour un projet, tout ce qui est les formulaires, les menus, les messages, les nodes, la structure de la page, donc la grille, et puis ce qui a trait aux engins de recherche. Donc, à la base, j'écris mon code ici. Donc, par exemple, je pourrais simplement donner une couleur rouge au lien qui se trouve sur mon site et puis du vert en over. Mais je pourrais aussi créer quelque chose de plus complexe ici. Donc, le résultat est compilé. Ici. Donc, non seulement c'est compilé, mais ça me dit aussi à quel endroit. Donc, on peut voir ici que ces styles viennent de custom.css et puis d'autres viennent. Donc, ça nous permet de déboguer plus facilement. Laissez-moi tenter quelque chose. Donc, mettons qu'on passera des liens. Donc, c'est un exemple trivial, mais bon, chaque changement pourrait être important ici. Si je remonte à mes thèmes, on a une fonction qui s'appelle CompassWatch qui permet de vérifier si j'ai fait un changement. Oh, attendez, je vais remonter. Comme ça, par exemple. Donc, ce qu'on a vu, c'est que puisqu'un changement qui a été détecté, donc il y a un overwrite qui fait sur le style ici. Donc, cette fenêtre-là, on la laisse ouverte en background ici. Si on fait un changement. Ici. Donc, à chaque fois que je fais un changement, ça va être reporté sur. Donc, on peut voir le résultat final. Donc, si je vais ouvrir à nouveau la feuille de style qui se trouve ici. Attendez. Sidesaw. Team. Donc, mon résultat final se trouve ici. Donc, finalement, on a une mise à jour live de nos fichiers, comme ça. Évidemment, donc, la plus grande utilité, c'est de pouvoir développer des styles beaucoup plus costauds, entre guillemets. Donc, changer les couleurs, ça va, mais les principaux usages, donc, c'est vraiment pouvoir intégrer des styles CSS3 très avancés. Donc, par exemple, on pourrait, en fait, ce qu'on a vu au cours des derniers jours. Oui, tu as raison. Théoriquement, il existe il y a différents styles de output qui sont disponibles. Donc, on pourrait décider d'avoir un output qui n'a pas les commentaires. Il y a différentes méthodes. Il y a aussi différentes façons de compiler les styles. Donc, il y a une façon de minimiser les styles. Au niveau des commentaires, c'est le principal usage. Ici. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? There's a few things I could say about. So the first one is that the final output of this is a CSS, so basically, if somebody doesn't know about CSS, he can just take the final version of it. So it will be an optimized CSS with no. It will have a few comments, but there will be no junk. There will be no extra rule. Everything will be in order, pre-compiled. So people could take the final CSS and run with it without knowing how to use SAS. The other thing is that there's a kind of a trend right now to try to reuse as much as possible design patterns and everything. So a lot of teamers right now are trying to learn this. One of the problem talks that it's kind of a split between LESS and SAS. Even in the Drupal community, there seems to be kind of a gap where... actually, I'll try to show you something if I can. No, actually. Sorry, I don't have access right now. But yeah, basically the idea is that you have the choice to either keep the pure CSS, or you can use either Last and SAS. Hopefully, as much people as we can expect will try to pick on it. The other idea, too, behind the Compass is to create a community where teamers would exchange different patterns between themselves. So that's one of the underlying themes that's hidden over there. So if somebody is doing a great, really great button, then people could start reusing it. We could share it and improve on it. So it's basically the same idea as the reset recipe that was done years ago that is still improved upon right now. So the community behind this is really important, and it's great to share the tools. Oui. C'est un problème. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir sur le serveur JavaScript, mais d'avoir la version finale. Donc, c'est vraiment un outil de travail local. Donc, nous, on l'utilise en tant qu'intégrateur web. Le résultat final, on met un CSS sur le... Oui. Bonne question. On va aller voir le résultat sur Drupal. Je vais essayer d'accéder. OK, on va une seconde. Hey, on a un browser, yay. J'espère que je suis toujours connecté. Donc l'idée, c'est, pendant que ça charge, je peux vous l'expliquer dans mes mots. Donc quand on va sur compass.install, c'est un peu un repositoire, un endroit où on dépose, où la communauté dépose des styles préfets. Donc, il y a une liste de... C'est classé par catégorie, ce qui est spécifique à CSS3, un dossier particulier. Et donc, en allant voir ce style-là, donc on peut voir comment là, ça a été fait, finalement. On peut décider aussi de le changer légèrement. Puis, bon, désolé pour ça ici. L'idée, donc, ceux qui. Donc, si vous pouvez aller sur compass.install.org, vous allez pouvoir accéder au code même qui se trouve dans la librairie. Bonne question. Peut-être pas nécessairement. En fait, c'est juste aussi. Il y a d'autres recettes qui entrent en cours de ligne là-dedans. Je sais, bon, j'avais entendu parler de CS3Py un petit peu, mais donc c'est pas nécessaire. En fait, ça peut arriver dans certains environnements que ça dégrade de façon gracefully, on peut dire. Ouais. L'idée, par exemple, bon, dans le cas des ombres, il y a une recette pour IE qui existe. Donc, ça utilise un plugin, donc un petit bout de code. Non, c'est une autre variante. Mais l'idée, dans le fond, c'est que toujours dans la feuille CSS, s'il y a un bout de code disponible, on peut l'intégrer, le publier sur le site de Compass, puis là, les gens peuvent en bénéficier. Bon, je suis désolé pour la connexion Internet. Je prendrai une dernière question. Est-ce que... Oui. C'est probablement, non, ce serait mieux de prendre une seule des deux structures parce que c'est des grammaires qui sont extrêmement ressemblantes, donc ça peut être mélangeant de passer d'un à l'autre, à moins vraiment d'avoir un projet, d'être obligé de travailler sur deux projets qui ont les deux en compétition. Donc je suggère d'en prendre une. Probablement que LAS est un peu plus LESS est un peu plus rapide à apprendre, à installer, mais à long terme, donc SAS offre plus de possibilités. Donc nous, on a décidé de choisir SAS pour... Et il y a une bonne nouvelle, c'est que sur Drupal.org, il y a un thème de base qui s'appelle Basic. Donc, si vous allez voir Basic, Drupal.org project/basic, c'est déjà un thème qui est entièrement construit en SAS. Donc, vous pouvez aller voir ce thème-là comme exemple, puis décortiquer un peu comment eux ont travaillé. Donc, c'est déjà un bon point de départ. Ben oui, bonus. Oui, excellent. Donc, l'idée, ce serait de compiler justement compiler le SAS en un fichier CSS qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait un résultat final, donc un dossier CSS. Donc, celui-là, on peut le mettre en production. Et c'est le seul qu'on utiliserait en production. Ouais. Mais non, en fait... En fait, nous, on fonctionne avec SVN. On va passer à Git bientôt, mais on est avec SVN. Et puis, donc, on mettrait à la fois les fichiers SAS en production, mais seulement comme référence. Donc, ils ne seront pas lus par les utilisateurs. Donc, ce qui va être lu, c'est le fichier CSS qui est disponible. Donc, dans le fond, c'est simplement le fichier CSS qui est utilisé. Puis, donc, on pourrait reprendre celui-là, puis retravailler dessus sans nécessairement passer par SAS. Exactement. Oui, c'est une bonne question. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut ici. C'est compilé en un fichier. Par contre, je pourrais ajouter d'autres fichiers supplémentaires. Donc, on a vu une librairie qui s'appelle normalize.css qui semblait régler différents problèmes. Donc là, on pourrait ajouter un normalize.css ici. Oui. Et puis, dans le fond, si je ne me trompe pas, dans les fichiers i7.css, i6.css pourraient être mis directement là et ils ne seraient pas affectés. Donc, dans le fond, ça se fait simplement compiler ce fichier ici, mais il ne touche pas aux autres qui sont dans le même répertoire. Ceux auxquels il touche, c'est vraiment celui-ci. Donc, il va prendre... Donc, en fait, il va simplement compiler ce fichier parce qu'il n'y a pas d'underscore. Et dans ce fichier, j'appelle... avec ça, import ici. Donc, c'est sûr, c'est un peu une structure à mettre en place comme ça, mais à long terme, ça nous permettrait donc simplement de se concentrer sur nos menus, nos structures de blocs. L'idée étant évidemment de le réutiliser sur le projet suivant. Donc, le prochain thème qu'on a à faire, on aurait déjà notre menu horizontal, menu vertical, différents trucs pour des boîtes de recherche. Oui, exactement. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut. C'est simplement ceux qui n'ont pas d'underscore qui sont compilés. Donc, si je reviens. Donc, c'est simplement lui qui est compilé dans tous les fichiers qu'il y a dans ce dossier-là, ici. Donc, à nouveau, il est compilé ici. Puis, je pourrais en avoir d'autres qui s'ajoutent. C'est sûr que si tu réimportes du serveur à ton fichier local, ça ici, ça va être écrasé. Donc là, il y a une question de workflow à préciser. Donc si tu reprends son fichier CSS, en fait, donc faut être prudent, effectivement, ça peut arriver qu'on peut écraser les. Non, il faudrait que tu. C'est ça. Dans le fond, peut-être une solution, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais une solution serait d'avoir un extra fichier custom.scss où là, tu peux mettre du CSS pur dedans, puis il va juste s'ajouter à la fin de ton fichier. Ce serait une solution, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est un plan B, donc ce serait une façon d'avoir, on a tous nos styles officiels, puis tout ce qui ne rentre pas ou tout ce qui est des cas d'exception, on pourrait les mettre. Non, le site de tantôt, c'était pour prendre une feuille de style existante, puis la compiler, donc l'alléger en format SAS. Donc. Je vais m'arrêter ici, genre, en mettant. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu, puis d'avoir apprécié. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le Drupal Camp en général. Je vais commencer les mots de la fin, mais en fait, bon, je vais laisser ça à mes collègues ici. Donc, si vous voulez me suivre, twitter.com, Sylvain Aubé. Et puis, donc, je vais publier les notes de cette session sur drupalcammontréal.com. Donc, si vous êtes sur la session, vous allez pouvoir avoir une copie de la version la plus récente de ma présentation. Donc, merci.